Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouedraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, est avec nous. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Yacouba, bienvenue à Kinshasa.
Amine Birouk est en direct de Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi Élisée Mpatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir tous.
Et nous retrouvons Amdine Si à Dakar. Après un séjour à Rennes, en France, Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Trois sujets majeurs ce soir. On parlera bien évidemment de la finale aller en Coupe CAF entre la Renaissance sportive de Berkane et le Zamalek de l'Égypte. On reviendra aussi sur cette folle fin de championnat en Première Ligue. Mais bien avant tout cela, direction Abidjan, et bien la capitale ivoirienne où se joue le tournoi UFOA Dames. Élisée, on prend les nouvelles de cette compétition avec vous.
Oui, Yacouba, il faut dire, c'est la première édition de cette compétition puisqu'on avait eu droit à... On avait quand même suivi concernant les messieurs déjà l'année dernière, cette année, c'est autour des dames de bien s'utiliser par rapport à cette compétition qui se joue actuellement du côté du stade Robert Champron d'Abidjan. Dans deux groupes ont été élaborés, notamment le groupe A qui est composé de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Sénégal. Dans la poule B, on a le Nigeria, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Il faut dire que quatre équipes survolent cette compétition où dominent largement leur groupe. Dans la poule A, la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont déjà qualifiés puisque ces deux équipes ont enregistré deux victoires chacune. Et la troisième journée a eu d'ailleurs cet après-midi. La Côte d'Ivoire et le Ghana se sont neutralisés 0-0. La Côte d'Ivoire termine ainsi en tête de ce groupe 7 points, tout comme le Ghana, mais avec une meilleure goal différentielle, un meilleur goal différentiel, il faut le dire, puisque dans cette rencontre, le Togo et le Sénégal complètent bien sûr le classement. Le Togo vainqueur du Sénégal 2-1, c'est sa première victoire dans cette compétition. Le Togo totalise désormais 3 points devant le Sénégal, qui totalise 0. Demain, place à la dernière journée dans le groupe B où on suivra Burkina Faso, Nigeria, Niger, Mali. Là aussi, le Nigeria démontre que c'est bien sûr le champion d'Afrique en titre. Les Nigérians suivent complètement ce groupe. Et déjà en deux matchs, les Nigérians ont déjà écrit 22 buts. Et la dernière victime à Pouno, le Niger, battu et samedi dernier sur la marque de 15 buts à 0, excusez de peu. Le Nigeria va affronter le Burkina Faso, c'est tellement pour terminer en tête de ce groupe. Le Mali aussi est là, le Mali qui a signé 2 victoires et qui compte 6 points aussi, va essayer de terminer avec 6 points puisque là on aura pratiquement le Nigeria en tête de ce groupe et le Mali va finir deuxième. Maintenant pour les demi-finales, on aura Ghana, Nigeria et Côte d'Ivoire, Mali. Et perçus des classiques du football féminin sur le continent, puisque quand on prend même au niveau continental, c'est pratiquement ces équipes qu'on trouve au premier plan. C'est vrai qu'il y a l'Afrique du Sud qui a commencé par faire un travail remarquable. Donc ce tournoi va prendre fin samedi prochain par la grande finale, certainement qui va opposer la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La Côte d'Ivoire entraînée par Clémentine Touré, que vous connaissez très bien, la dame de fer, qui a amené au moins une fois la Côte d'Ivoire en phase finale de la Coupe du Monde. Est-ce que les Ivoiriennes vont remporter ce trophée au Tenzi?
Merci bien, Élisée Mpatine, qui suit cette Coupe UFOA Dames pour nous. On en vient à l'événement de cette semaine, la finale allée de la Coupe CAF. Les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane reçoivent les Égyptiens du Zamalek pour cette première manche, et donc la manche allée. Alors, Amine, Berkane s'apprête pour sa première finale continentale et voudra sans nul doute réussir son match allé à domicile avant le retour au Caire.
faudra certainement, Yacouba, prendre un maximum de précautions dans ce match. Éviter déjà de prendre le but fatidique à l'extérieur avant de jeter toutes ses forces dans la bataille et chercher ce petit but d'avance ou ces deux petits buts d'avance qui pourraient procurer à ce club qui a moins de 50 ans d'existence la possibilité de brandir son premier trophée continental face à un ogre habitué à disputer les finales, qui possède dans son ADN la culture de la gagne. L'équipe du Zamalek est en plein championnat égyptien, tout comme la Renaissance sportive de Berkane, sauf que celle-ci a la particularité de n'avoir quasiment aucun enjeu dans le championnat. Donc, la possibilité peut-être de faire tourner l'effectif, de faire souffler les principaux cadres et leur permettre d'aborder ce match dimanche prochain avec un maximum de fraîcheur. L'équipe du Zamalek sera privée de son gardien de but principal, Guénèche, qui avait été exclu lors du match contre l'Étoile sportive du Sahel dans les arrêts de jeu. Elle vient aussi de perdre son deuxième gardien de but sur blessure. On verra s'il pourra être présent ou s'il pourra être récupéré par le staff médical à temps. L'équipe du Zamalek, c'est un capital expérience et de nombreux internationaux égyptiens. Donc, mission difficile pour la Renaissance sportive de Berkane. Mais aujourd'hui, quand on voit le parcours de cette équipe depuis deux ans, quand on prend en compte le nombre d'équipes prestigieuses qui ont été éliminées par la Renaissance sportive de Berkane, et si on met de côté toutes les polémiques liées à la présence du président de la Fédération marocaine de football dans le bureau dirigeant de ce club, on peut se dire qu'il y a de fortes probabilités de voir Berkane au moins rivaliser avec le Zamalek, sinon aller créer cette petite sensation. Ils seront outsiders face à l'ogre du football égyptien, le Zamalek, qui est aussi engagé dans un mano-mano avec l'Ahly et l'équipe de Pyramids dans le titre, ou pour le titre de champion d'Égypte.
Alors Amine, je reste avec vous. Vous évoquiez les blessés du Zamalek tout à l'heure. Des blessés, il y en avait également du côté de Berkane. Je pense notamment à Alain Traoré. Le club marocain va-t-il réussir à le mettre sur pied en voie dimanche?
Pour l'instant, c'est tangent. L'objectif, c'est qu'il soit prêt pour ce match fatidique, qu'il soit prêt au moins pour une partie du match. Mais pour le moment, il y a deux gros absents. Il y a Alain Traoré, il y a Samad Mbarki, qui est aussi un des éléments les plus expérimentés de cette équipe. On verra si l'équipe pourra les récupérer à temps. Pour le moment, c'est plus la Bakodjo qui est en concurrence avec Moissigny Jour pour le titre de buteur du championnat marocain qui est en forme, qui est l'atout numéro 1 de cette équipe. Et puis derrière, il y a Issoufou Dayo, l'international togolais qui fait aussi bien.
L'international burkinabé
plutôt, qui fait aussi bien dans cette équipe et qui soutient bout de bras la défense de la Renaissance sportive de Berkane. C'est en partie lui qui a réussi à débloquer la situation la semaine dernière face à Sfax lorsqu'il a inscrit le troisième but.
Le Zamalek, on le sait, est quintuple vainqueur de la Ligue des Champions avec au total 12 finales continentales jouées pour 9 titres de remportés. Alors Jules, c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes acteurs, mais le vécu du club pourra aider les Égyptiens.
Oui, bien sûr, l'expérience du côté des Égyptiens qui ont montré d'ailleurs tout au long de la compétition qu'ils montaient en puissance. Au début, ils ont accumulé des matchs nuls, disons des résultats pas très convenables, on craignait même qu'ils soient éliminés. Mais au fur et à mesure que la compétition avançait, ils montraient la solidité de leur défense et ils prouvaient également que c'est une équipe qui peut, à tous les niveaux, sur toutes les lignes, faire la différence et finalement, elle se retrouve là peut-être où on ne l'attendait pas au début de la compétition. Donc, alors, riche de son expérience, cette équipe peut fortement déranger Berkane qui est, je ne sais pas moi, dans un état d'esprit et beaucoup plus offensif et beaucoup plus spontané. Donc je crois que tout se jouera peut-être au niveau de l'expérience et à ce niveau-là, Zamalek peut gêner Berkane.
Alors Thierry, en Europe comme sur le continent africain, on a vu des retournements de situation contre des équipes qui ont réussi pourtant leur match aller et qui se sont vues surclassées au match retour. Est-ce qu'il serait judicieux par exemple pour le Zamalek de jouer frein à main et de compter sur le match retour chez lui au Caire?
Ah non, avec l'expérience, comme l'évoquait ou le soulignait Gilles Valentin Gué tout à l'heure, mieux vaut assurer, dans la mesure du possible, un bon résultat à l'aller, même si on joue à l'extérieur et terminer le travail au retour. Hein, la remontada, c'est vrai, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, ces dernières semaines, mais elle n'est toujours pas possible hein, dans toutes les circonstances. Je pense que le Zamalek, avec son arbre, avec le trophée qu'il a accumulé ces dernières années, sait comment aller négocier un bon résultat à l'extérieur, surtout pour des matchs aussi décisifs. et venir terminer le travail à l'aller. Pourquoi pas faire la différence face à une très belle formation de Berkane. Amine l'évoquait tout à l'heure. J'ai vu cette formation à Kinshasa jouer contre l'association sportive club, formation au sein de laquelle il y a un ancien joueur de l'ASB Club, hein, l'international burkinabé Dayou Soufou, qui joue en défense centrale. Une très belle formation. Alors on peut tout dire de son inexpérience. C'est une équipe qui est en train de grandir sur le continent, qui a certainement acquis de l'expérience, qui a tiré des leçons de ses dernières contre-performances au niveau continental. Il ne faut pas les négliger du tout. Et donc voilà, je pense que si la possibilité pour les Amalek, qui, comme le soulignait Jules-Valentin Gouet, a démarré comme un moteur diesel lentement, en hésitant et monté en puissance, il y a possibilité de faire un bon résultat à l'extérieur au Maroc face à cette très belle formation. Je pense qu'il ne faudrait pas forcément compter sur un match à retour à domicile qui pourrait être très très compliqué parce que, comme je l'ai dit, j'ai vu Berkane jouer et à l'extérieur et cette formation peut poser d'énormes difficultés, même aux équipes d'expérience comme les Amalek.
Vous êtes bien suivi au Afrique et vous suivez l'émission Sporama, direction l'Angleterre pour parler de cette folle fin de championnat hier en Premier League. Vainqueur à Brighton lors de la dernière journée 4-1, Pep Guardiola et ses hommes ont remporté sur le fil un épique duel à distance contre Liverpool pour conserver leur titre de champion d'Angleterre. Ce fut fou et c'est pour ça aussi qu'on aime le foot. Alors Amdine, réussir un back-to-back comme le disent les Anglais, ce n'est plus arrivé depuis 10 ans avec Manchester United. City, disons, l'a bien réussi et conservé donc son titre.
On a assisté à une saison époustouflante avec des performances inédites et un podium de l'air concernant les buteurs. Comme vous l'avez dit, City a réussi ce que United avait réussi il y a très longtemps. City qui a dû batailler ferme quand même pour coiffer au poteau cette équipe de Liverpool parce que durant quand même beaucoup de mois, c'était Liverpool qui faisait la course en tête. On se rappelle encore lors de leur face-à-face au mois de décembre, lorsque City recevait Liverpool, Liverpool avait déjà 7 points d'avance, donc City a bien négocié, c'était une sorte de finale et City a remporté cette finale. Et depuis cette finale remportée, City a enchaîné les victoires, il faut le dire. City a réussi à enchaîner 14 victoires d'affilée, il fallait le faire et les City de l'ont fait. Chapeau à Guardiola, mais chapeau également à ces joueurs hein, qui ont été très déterminants durant ce parcours. Ils se sont concentrés sur le sujet, malgré qu'ils jouaient beaucoup de trophées, parce que City est sur tous les tableaux, hein, hormis la Ligue des Champions. C'est vrai qu'ils ont été éliminés en quart de finale à la Ligue des Champions, mais ils sont sur tous les tableaux. Ils jouent dimanche prochain la finale de la Coupe. Ils ont déjà remporté. Pour cette année, je dirais que City est vraiment l'équipe de rêve au niveau de l'Angleterre parce qu'ils ont réussi ce qu'aucun club n'a réussi en Angleterre, Yacouba.
Merci bien, Amdine. Il faut le dire, hein, déjà détenteur de la Coupe de la Ligue, les champions doivent encore disputer, vous le disiez, la finale de la Coupe d'Angleterre samedi prochain contre Watford. Alors, Élisée, ce triplé, hein, encore jamais réalisé en Angleterre, lui ouvrirait sans doute hein, définitivement les portes de la légende et ils en ont les moyens.
Oui, avec cet effectif, hein, Pep Guardiola qui a toujours travaillé comme ça, partout il est parfait. On va même devenir qu'on a vu hein, les recrutements qu'il a effectués à ce club, puisque l'objectif c'était la Ligue des Champions. Également Manchester City, il a fait ce genre de recrutement, histoire de remporter la Ligue des Champions. Ça me tente de dire aujourd'hui que Manchester City a le plus grand effectif hein, de la Première Ligue et que Guardiola peut sortir trois clubs hein, et trois équipes dedans. Donc c'est-à-dire que quand vous voyez l'équipe qu'il a alignée lors même de la dernière journée avec le russe sur le côté gauche de la défense, c'est vrai que à un moment donné, l'Argentin Nicolas Otamendi n'est plus titulaire. On a vu aussi la bonne forme hein, de Gundogan, hein, de l'Allemand d'origine turque hein, qui s'est bien retrouvé au milieu de terrain avec désormais un seul milieu à la récupération, deux milieux offensifs avec David Silva qui est à la baguette. Donc c'est-à-dire que
Guadeloupe a les petits pipos, il a une très bonne équipe, aussi très expérimentée avec le Goliath de Sergio Agüero. Donc, c'est-à-dire que Yacouba, cette formation peut faire le triplé, le championnat, la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleterre.
Alors, Amine, pour remporter le titre, Pep Guardiola et ses hommes ont dû gagner 14 matchs d'affilée, comme le disait Amdine tout à l'heure en championnat. Ce n'est pas simple hein, quand on connaît quand même le niveau de cette première ligue-là.
Et ce n'est pas simple pour Liverpool de ne subir qu'une seule défaite, d'engranger 97 points et de rester ou de finir le championnat Fanny. Manchester City, c'est 198 points sur deux saisons, une moyenne de 99 points. C'est un effectif pléthorique. C'est un entraîneur qui vit par et pour le football et c'est quasiment une obsession, un perfectionniste, peut-être même dogmatique, mais visiblement quelqu'un qui réussit partout où il passe. À Barcelone, on se rappelle qu'il a façonné l'équipe qui a dominé le football européen. Sur le championnat allemand avec le Bayern, il a dominé la Bundesliga, il a manqué la petite cerise sur le gâteau avec une finale européenne, voire un titre en Champions League. Et puis, avec City, c'est quand même un back-to-back. Aujourd'hui, on a l'impression que l'équipe de Manchester City marche sur l'eau, que l'entraîneur est un entraîneur de championnat qui sait gérer ses compétitions. Il y a un seul bémol pour Pep Guardiola, c'est qu'il n'a plus gagné la Ligue des Champions depuis 2011, que cette équipe de Manchester City a échoué 3 saisons d'affilée sur le Graal européen. C'est ce qu'il va falloir peut-être corriger. C'est ce qu'il va falloir peut-être aussi viser la saison prochaine, parce que avec cet effectif, avec cette pléthore de talents, cette flexibilité tactique, parce qu'ils sont capables de jouer avec une défense à 4, une défense à 3, cette capacité à pouvoir faire la différence à tout moment avec différents schémas de jeu, il va falloir maintenant que cette équipe puisse avoir la culture de la gagne sur la scène européenne. C'est ce qui a manqué visiblement à Paris Saint-Germain en France, c'est ce qui manque encore à Manchester City en Angleterre.
Je rappelle que l'écart hein, était de 7 longueurs fin décembre en faveur de Liverpool, puis de 5 fin janvier, toujours en faveur de Liverpool avant que City bien sûr ne renverse la situation. Alors Thierry, ce fut un mano à mano hein, assez fou entre ces deux géants anglais.
Absolument, Emmanuel Amano, c'est fou. Hein. Je suivais encore Pep Guardiola hier qui rappelait qu'il y a un mois, Manchester City avait 7 points de retard sur Liverpool. Bref, ça nous a offert une fin de saison de ouf, comme le disent les Français, une fin de saison très folle, véritablement, et avec des équipes qui ne se lâchaient pas. Week-end après week-end, on s'attendait toujours à ce que Liverpool ou Manchester City fassent un faux pas pour que l'autre décolle. Mais non, c'est jusqu'à la dernière journée que tout cela s'est dessiné. Mais je voudrais tout de même, Yacouba Ouédraogo, après avoir valider hein, toutes les analyses de mon confrère, souligner quelque chose de particulier qui s'est opéré dans ce championnat. Aujourd'hui, la première ligue nous a offert 4 finalistes des différentes compétitions européennes, mais aussi, et c'est pour la toute première fois de l'histoire de ce championnat, que 3 meilleurs buteurs du championnat
viennent
tous de notre cher continent. C'est quelque chose de particulier à souligner parce que la presse européenne ne l'a pas évoqué de manière assez éloquente. J'ai parcouru quelques journaux francophones européens. Je n'ai pas vu justement que cela a été souligné et cela mérite bien d'être par nous, fils du continent, voir les performances de Mohamed Salah, de Sadio Mané, qui au jour le jour a confirmé qu'il était si précieux à cette équipe de Liverpool, et voir comment Pierre-Emerick Aubameyang, qui est arrivé la saison dernière à Arsenal en provenance de Dortmund, a brillé de mille feux, surtout a fini de très 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 belle manière cette première ligue. Les 3 ont mis chacun 22 buts. Franchement, ça mérite d'être souligné, ça mérite d'être salué à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations. On est fiers de ces garçons, on est fiers de les voir surtout briller autant qu'ils l'ont fait en club en Égypte lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est une performance véritablement qui est digne du continent, digne des fils qui ont vraiment fait l'honneur semaine après semaine du continent africain dans l'un des meilleurs, si pas le meilleur championnat européen cette saison.
Merci bien Thierry. Si la presse européenne l'a oublié, nous ne l'avons pas oublié, on allait le mentionner tout à fait juste hein, dans la question suivante et on va y revenir justement. Alors Jules, on le rappelait, Liverpool était entre-temps en tête hein, de ce championnat de Premier League avant de craquer. Est-ce que Liverpool hein, peut avoir des regrets après avoir quand même à un moment donné tenu le championnat en main?
Oui, bien sûr, il peut avoir des regrets, mais le fait qu'il y ait un mano à mano n'est pas, disons, étrange. Il faut dire que sur le plan, au niveau de l'effectif, l'effectif de Manchester, c'est qu'il lui permet d'aller plus loin parce que nous avons des joueurs interchangeables d'un niveau exceptionnel et qui, ma foi, quand ils rentrent sur le terrain, réellement, c'est essentiellement pour gagner. Alors que Liverpool, cette année, a bien sûr solidifié son jeu, a renforcé sa défense avec surtout l'entrée en forme de Matip, qui forme une muraille avec Van Dijk au milieu de la défense, a profité de la forme de Sadio Mané et a ramené Salah un peu plus en arrière pour l'alimenter. Mais seulement, c'est une équipe qui était moins variée dans le jeu que Manchester City, qui a vraiment un effectif exceptionnel. Donc, je crois que ça s'est joué sur très peu, mais la victoire de Manchester City est compréhensible et, ma foi, elle est juste.
Je rappelle qu'au classement final de cette première ligue, dans le Big Four, City est en tête avec 98 points, Liverpool suit avec 97 points, Chelsea est troisième avec 72 points et Tottenham quatrième 71 points. Arsenal est cinquième et conserve sa chance de décrocher tout de même une place en Ligue des Champions. L'année prochaine, en cas de victoire, le 29 mai face à Chelsea en finale de la Ligue Europa. Manchester United pointe à la sixième place. Puis, les Red Devils ont été battus à Old Trafford par le relégué Cardiff après une nouvelle sortie médiocre, on va le dire, 2-0 lors de la dernière journée. Jules, je reste avec vous. Manu fait sans doute partie des déceptions cette année.
Oui, puisqu'il reste toujours à sa sixième place. Mounir, disons, son entraîneur fétiche est parti et Manchester était sixième. Il finit le championnat sixième. Et donc, au niveau des effectifs, il n'y a pas de très grande vedette. Pogba, en forme ou pas en forme, reste le leader. Et donc, franchement, c'est une équipe qui devrait, disons, recruter pour pouvoir avoir des chances, les mêmes chances que les équipes précitées.
On en vient au meilleur canonnier de cette première ligue. En trio de tête, trois Africains, Thierry le disait. Il s'agit du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang d'Arsenal et le Sénégalais Sadio Mané et de l'Égyptien Mohamed Salah de Liverpool. Les trois attaquants ont fini, chacun avec 22 buts. Alors, Amdine, une saison accomplie pour ces Africains-là, en attendant bien sûr les finales de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa.
Tout à fait, tout à fait. C'est inédit, hein, trois buteurs africains pour un seul trône. Ça n'est jamais arrivé, donc c'est une première, il faut le souligner. Et si on regarde bien, ce trio a été quand même le trio des quatre autres de 2018. Hein, il y avait Salah, Sadio et Aubameyang. Donc c'est une très bonne chose. Cela prouve que le football africain est arrivé au sommet, il faut le dire au sommet, parce que au niveau du championnat anglais, on retrouve les meilleurs footballeurs quand même du monde. Si des footballeurs africains se payent le luxe de gagner quand même le titre de meilleur buteur, on est à la barbe de tous ces grands joueurs. Il faut dire chapeau à ces joueurs. Maintenant, comme vous l'avez dit, il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Ces joueurs doivent confirmer. Malheureusement, Aubameyang ne sera pas à la CAN, il n'est pas qualifié, mais je pense même que le titre du Ballon d'Or africain se jouera lors de cette CAN entre Sadio Mané et Salah, parce que ces deux joueurs qui sont en train de réaliser des saisons phénoménal, mais il faut confirmer au niveau de l'Afrique, et je pense que c'est encore plus difficile en Afrique, Yacouba.
Alors, Amine, très rapidement, il y a des joueurs aussi qui étaient attendus, peut-être qui n'ont pas répondu présent. Je pense à l'Ivoirien Eric Bailly, qui est actuellement blessé, mais aussi à Riyad Mahrez, qui était en concurrence avec Raheem Sterling à Man City, et qui n'a finalement pas eu la place.
Une grosse inconnue, autant il était flamboyant à Leicester, autant lui prédisait de faire le grand saut à Manchester City avec beaucoup de réussite, autant cette saison, il a fait plutôt il a joué au doublon de Raheem Sterling. Mais il faut mettre aussi au crédit de Raheem Sterling le fait qu'il ait fait une saison exceptionnelle, qu'il ait été un des éléments les plus méritants de Manchester City, qu'il ait éclipsé Riyad Mahrez avec tout son talent. Il va falloir maintenant que l'international algérien rebondisse. Comment ? En faisant déjà une bonne CAN. Lui qui a eu du mal à s'imposer avec les Fennec, il va falloir qu'il devienne leur leader technique et qu'il puisse faire oublier cette saison mièvre où il a passé beaucoup plus de temps sur le banc de touche que sur le gazon de l'Etihad Stadium ou sur les terrains de Première Ligue. Riyad Mahrez est un joueur talentueux, c'est un joueur versatile. C'était le premier choix de Pep Guardiola, mais visiblement, il va avoir du mal, ou il a eu du mal, à s'adapter au jeu de Manchester City, surtout à l'exigence d'un entraîneur du calibre de Pep Guardiola.
Merci bien, Amine Birouk, depuis Casablanca, Sporama qui s'achève ici, à la console Zoïtek Voniak et à la réalisation Michel Joseph. Yacouba Ouedraogo vous a présenté cette émission. On se dit à lundi prochain.